1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un intro dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je passerai à l'antenne.
J'écoute, ça va arriver les voisins.
Bonjour, bienvenue sur PFM 99.9, vous êtes bien avec les décadrés. Benjamin, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, d'accord. Ange, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on va commencer cette émission très tranquillement, comme notre habitude, avec les news de Benjamin.
Ange.
Oui, attendez, je réglais un peu votre son de micro parce que ça me semblait bizarre.
T'es quelqu'un de très aimable.
Mais c'est parti.
Alors... Donc Steven Spielberg a annoncé qu'il allait remaker West Side Story, le classique de Robert Wise. Alors on sait que le cinéaste adore la comédie musicale, et il a mis en scène cette passion dans des films, donc dans des scènes de plusieurs films. Donc on a 1941 et par exemple la scène introductive du Temple Maudit, deuxième volet Indiana Jones. Bon alors Spielberg qui fait un remake, affaire à suivre on dira. Ensuite une nouvelle gay, la série MacGyver qui a le droit en ce moment à son remake. On vous en avait parlé la semaine dernière avec un trailer abominable. Bah, c'est pas qu'on avait anticipé le désastre, mais devinez quoi, le pilote est retourné. Bah oui, et pas par n'importe qui, par James Wan qui est le réalisateur des Conjuring, de Saw 1 et de Death Sentence entre autres. Donc l'histoire en serait aussi complètement bouleversée. Donc la série remake qui allait débouler sur nos écrans suivait MacGyver qui était interprété par Lucas Steele. Donc recruté par une organisation clandestine pour agir en prévention de catastrophes à venir. Alors que dans la version James Wan, MacGyver agirait pour compte du gouvernement en devenant le créateur de l'organisation clandestine. Aussi on ne sait pas si Lucas Steele va rester dans le rôle de MacGyver. J'espère pas trop. Une dernière petite chose à dire, donc Wan devait en fait déjà relancer le personnage via un long métrage avant de se lancer sur Fast and Furious 7. Et ça devait être une sorte, je cite, d'ennemi d'état dans lequel Will Smith a le cerveau de MacGyver. Ouais, voilà. Enfin...
C'est donc Will Smith devait jouer MacGyver.
Non, c'était juste une métaphore.
Ah d'accord. Parce que j'imaginais Will Smith avec une coupe mulet en fait, et blond. C'était assez bizarre.
Une nouvelle plus triste. Anton Yelkin, acteur américano-russe, est décédé à l'âge de 27 ans ce dimanche 19 juin. On passera donc sur les circonstances absurdes et floues du décès. Voilà, on l'a vu dans les Star Trek de J.J. Abrams, et bientôt dans la suite, Star Trek Beyond. On l'a vu aussi dans le remake de Fright Night, qui était plutôt réussi, dans Terminator Renaissance, dans Alpha Dog, dans le complexe du castor de Jodie Foster, ou encore dans le très récent et très fort Green Room. Donc personnellement, j'ai été touché. Je suis pas un fanatique de l'acteur, mais je me sens pas forcé, mais on est il faut reconnaître qu'il est, c'était un acteur talentueux qui était en puissance, qui était plein d'avenir, et sa vivacité, sa fraîcheur et son esprit d'aventure me manqueront. Donc j'ai voulu lui rendre un petit hommage en musique en passant l'un des morceaux composés par Michael Giacchino pour Star Trek, nommé Enterprising Young Men.
We'll be right back.
Alors, vous écoutez bien les décadrés sur PFM 99.9.
Oui, c'est bien ça, ça n'a pas changé.
Voilà. Donc, place à Antoine qui va nous parler de Nom d'Anna, film réalisé par Edward Norton, avec Edward Norton, produit par Edward Norton, écrit par Edward Norton. Edward Norton à la grosse
Alors,
tête.
Je vais pas du tout te remercier parce qu'en fait, tu viens de foutre en l'air toute mon intro. Merci, Benjamin.
Ah, je suis désolé.
Du coup, je vais la refaire. Alors, Au nom d'Anna est un film d'Edward Norton avec Edward Norton, avec une production d'Edward Norton Film et une histoire en partie écrite par Edward Norton. Donc, Edward Norton vous présente son premier long métrage, un film sorti en 2000 et qui se nomme Au nom d'Edward Norton. Oh, pardon. Au nom d'Anna. Alors, bon, plus sérieusement, si je commence l'introduction qui a été bousillée par Benjamin si de seulement. Cette chronique ainsi, ce n'est pas pour une mauvaise raison, parce qu'en réalité, j'adore Edward Norton. Cependant, il faut savoir qu'en plus d'être un excellent acteur, Edward Norton, que vous pouvez retrouver dans des films tels que American History X, Moonrise Kingdom ou encore Fight Club, est également connu pour son investissement dans les films dans lesquels il travaille.
Ouais, mais il est connu pour être un gros chieur sur les films.
N'hésitant pas, justement, à rentrer en conflit avec les réalisateurs ou les producteurs, le Norton brave toujours le danger et se donne corps et âme dans ses rôles. Et j'ai un très grand respect pour son travail d'acteur et c'est donc avec une joie non dissimulée que je suis parti à la rencontre de son premier film en tant que réalisateur. Et laissez-moi vous dire une chose, en termes de réalisation, c'est pas la folie non plus, mais on y reviendra. Alors, Au nom d'Anna, c'est l'histoire d'une amitié sans faille entre Jack, interprété par Ben Stiller, rabbin de confession, et de Brian, interprété donc par, je vous laisse deviner...
Anna. Ben Stiller.
Non, Edward Norton. Enfin, donc Edward Norton qui est prêtre dans une église catholique. Une histoire qui semble sonner déjà comme le début d'une blague. Hein. Alors c'est un rabbin et un prêtre dans une église. Enfin, ça ressemble un peu à une blague.
Alors donc, il y a une blonde qui arrive.
C'est ça. Donc ça ressemble à une blague. Le film ressemble à une espèce de petite blague sur les religions. Sauf qu'ici, il s'agit surtout d'une histoire d'amitié, mais également une histoire d'amour, puisque le retour de leur meilleure amie d'enfance, Anna, qui est interprétée par Jenna Elfman, va venir à la fois bouleverser l'amitié des deux amis, mais également la foi de Brian, donc Edward Brian. Norton. Alors d'ailleurs, petite anecdote rigolote sur le film, puisque Stuart Blumberg, qui est le scénariste, eut l'idée du script en lisant un recueil de blagues sur les prêtres et les rabbins. Du coup, c'est pas un hasard.
Un hasard.
Non, mais je dis un hasard.
Ok.
Je suis à la radio, j'ai tous les pouvoirs. Les gens m'entendent, je dis un hasard. Non, excusez-moi, un hasard, pardon. Et en soi, la force de ce film vient surtout de son scénario et du travail des acteurs. Puisqu'à mon sens, sans aucune fausse note n'est à déplorer dans l'interprétation du trio fabuleux, l'interprétation des trois protagonistes par nos chers comédiens est aussi efficace individuellement qu'en duo ou en trio. Là-dessus, aucune crainte à avoir. De plus, ce scénario nous offre une histoire au final assez intéressante pour nous maintenir tout au long du film. Bien sûr, même si on ressent dans l'avancée de l'intrigue... quelque chose de prévisible, hein. Enfin, c'est l'avancée de la trique est plutôt prévisible, mais la justesse des dialogues et l'interprétation des comédiens suffisent à nous porter jusqu'au bout du film, jusqu'au dénouement final. Et là maintenant vous dites, non mais c'est sûr, Antoine c'est un gros rageux, il va parler de la réalisation du film, il l'a dit tout à l'heure, il va le détruire, vu ce qu'il a dit, il a dit qu'en gros c'était loin d'être un grand film. Et en fait, je vais vous répondre que non, c'est faux. C'est pas du tout un mauvais film, c'est pas un grand film, mais c'est pas un mauvais film. Même si je trouve qu'en matière de réalisation, Norton effectivement ne s'est pas vraiment pas foulé les chevilles, je reconnais cependant que celui-ci a eu au moins le mérite de nous présenter des plans propres dans lesquels... Ouais. Merci de m'avoir coupé parce que je suis complètement... tu peux pas te taire, sérieusement.
J'allais dire qu'il savait mettre en scène les acteurs, voilà. Et qu'il y avait un sacré casting.
Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est le casting... au final, le film, il se repose davantage sur l'interprétation des comédiens, sur la justesse des plans, que sur la réalisation.
Ouais, exactement.
Cependant, il s'agit d'une réalisation qui n'est justement pas dénuée d'intérêt, puisque celle-ci nous propose de suivre... ni plus ni moins qu'une fable comique romantique qui est celle de trois amis dont l'amitié est censée perdurer pour toujours. Enfin, on l'espère. Et de ce fait, je vais vous laisser sur ce petit titre de Peter Sellett qui est dans le film Au nom d'Anna qui s'appelle Heart of Mine.
Quel bel accent anglais.
Je sais. Turn into the gold. Les décadrés 99.9 sur
PFM.
Waouh, synchronisation linguistique optimale, les gars, bravo. Alors maintenant, on va passer sur notre ami Benjamin. Enfin, nous n'allons pas passer sur Benjamin. Nous allons parler de Benjamin. Nous, on va pas parler de Benjamin non plus, en fait. On va parler d'âge versus évité de Benjamin plutôt.
Ouais, on va parler de la représentation du
Est-ce
mal.
Est-ce que tu veux que je foire ton intro?
Non, mais tu arriveras pas. Dans âge versus Evil Dead et au-delà. C'est parti. J'allais dire une chose abominable. Alors, une ouverture en fondu, des voix étranges, venues et fantomatiques, un mouvement à partir de la forêt, de la nature donc, ici mère de l'enfer. Le plan est loin d'être coupé, car nous avons affaire non pas à une image humaine, mais à une image à la fois subhumaine et au-delà de l'humanité. C'est le démon qui nous montre son chemin, ce qu'il voit. Sa chasse, c'est lui qui maîtrise la caméra. Il devrait porter un S, car le démon est à la fois unique, multiple, divisible et corps collectif. Il avance sur un homme qui porte une chemise bleue, grand, beau, handsome, dira-t-on, et groovy. Il est armé d'un fusil et d'une main tronçonneuse, c'est H versus Evil Dead. Voilà.
Ça, c'est fait.
Ça, c'est de l'intro. Dans Ash versus Evil Dead, en octobre 2015, le héros coloré, surtout très bloody, est revenu pour une ultime, on pose la question, aventure pour combattre les forces des ténèbres. 25 ans après son dernier combat contre l'armée des ténèbres au cinéma, donc en 1993.
Exact.
Ash doit à nouveau affronter les démons et cet affrontement prend forme dans une série télévisée chez Starz, toujours avec Sam Raimi aux commandes, accompagné par son frère Ivan et le producteur Robert Tappert. Soit 33 ans quand même après le premier volet de la trilogie originale, les gars, quand même. Dans la série, on retrouve Ash toujours avec le génial Bruce Campbell, merci Antoine, ouais, plus en forme que j'avais, qui a lui-même déchaîné les forces obscures en lisant le Necronomicon, ou Livre des Morts, dans une soirée arrosée et sexuelle. Les apparitions démoniaques dans la trilogie originale s'emparaient du cinéma de deux manières, du champ de la caméra en la contrôlant, et à l'intérieur de l'image en possédant des corps humains que le mal aura auparavant meurtri. Donc, comme si les corps des acteurs et leur caractère charnel, organique, permettaient au mal de dépasser l'immatérialité de l'image du cinéma. Donc une image du cinéma qui est quand même matérielle, puisque technique, mais pas organique, on est d'accord. Donc la série pousse cette brillante et folle idée de Rémy. On trouvera de nouveaux démons aux nouvelles particularités. L'un d'entre eux, à la fois présent et absent dans un cercle spirituel, réussit à rentrer dans le monde physique, car le cercle aura été brisé. Et sa force sera de dominer l'esprit des personnages, de les paralyser. Et l'image, ce qui est assez amusant, c'est que l'image subit son pouvoir. Subit la distorsion de l'esprit des personnages. Donc de même que on verra des enfants nés du mal, ouais, mais littéralement nés du mal, ils sortent de la bouche d'un des potes de H, qui se camoufleront dans les ténèbres de l'intrigue. littéralement dans les ténèbres de l'image. À noter qu'ils sont nés du corps de Pablo, exactement. Donc, en sortant de son corps par la mâchoire, l'humain étant alors un passeport pour le mal que le cinéma empêche de grandir. Donc voilà pour la chronique, et moi personnellement je vous laisse avec la musique Space Truckin' de Deep Purple qui est dans le premier épisode et qui met bien l'ambiance dans la série. Merci. Bien les décadrés sur PFM 99.9. Et maintenant, Ange va nous parler d'un film qui s'appelle We Are Four Lions.
Tout à fait, We Are Four Lions, donc comme vous l'avez entendu, dont je vais vous parler, film réalisé par Chris Morris, scénariste de In the Loop. Film que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien. Mais We Are Four Lions, c'est un film qui fait du bien à voir, en tout cas. Un film sur un sujet grave qui touche le monde entier en ce moment, un film sur le terrorisme. Mais attention, c'est un film réalisé en 2011 et qui a obtenu le BAFTA du meilleur premier film, ce qui est quand même pas mal.
BAFTA, c'est Oscar anglais.
Voilà. Donc, c'est un film sur le terrorisme et qui a été fait bien avant les attentats que nous connaissons là de cette année. Donc, alors là, vous allez me dire, un film qui fait du bien alors que c'est sur le terrorisme, mais t'es complètement malade, Ange. Mais pas du tout, il s'agit d'une comédie anglaise dans laquelle on rencontre 5 apprentis kamikazes qui montent un coup décisif qui fera parler d'eux et de leur cause. Le seul souci, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Donc c'est un scénario assez simple en soi, mais j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, c'est du jamais vu. Habituellement, nous sommes plus à la poursuite des terroristes plutôt qu'être spectateurs de leur préparation. On les voit plus comme des méchants, à vrai dire, habituellement. Alors que là, pas du tout, enfin à mon goût. En soi, ils ne sont pas méchants, ils sont juste très cons, certes,
très con,
mais pas méchants.
C'est le mot le plus juste.
C'est ça, c'est des cons en puissance. C'est vraiment la base de l'humour anglais, c'est des cons, dans ce film. Donc nous suivons l'aventure des 5 campeurs, chacun lançant ses idées sur l'attentat qu'ils doivent mettre en place, allant dans un camp d'entraînement afin d'avoir le soutien d'un émir, et tout cela avec beaucoup de difficultés. C'est un film totalement d'actualité, parce qu'on peut découvrir une certaine approche de ces personnes, sont-elles vraiment comme cela, je n'en sais rien, mais on a le droit de le supposer. Comme l'ont fait les créateurs de ce film, tous les propos dans le film, en grande partie, nous les avons déjà entendus en vrai. Donc, par exemple, on veut faire un attentat parce que la meilleure réplique que j'avais entendue dedans, c'est parce que le système américain nous impose différents types de cheddar.
Ouais.
Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle ils veulent faire un attentat.
Ah oui, ils sont vraiment. Ouais.
Ah bah en fait, les scénaristes ont vraiment vulgarisé la chose, ce qu'ils nous proposent, ce qui est un peu.
Ils ont rendu ça bon enfant, quoi.
Voilà. Mais en même temps, quand tu écoutes un peu les discours qui sont donnés. Par les terroristes,
c'est des métaphores.
C'est plus des métaphores. En fait, quand ils parlent de Cheddar, c'est des images.
C'est l'invasion impérialiste.
Ouais, voilà. Ils reprennent vraiment les discours, les vrais discours, et ils les vulgarisent à mort. Donc, où est-ce que j'en étais ? Je ne sais plus. Donc, tous les propos dans le film, en grande partie, comme je le disais, nous les avons déjà entendus en vrai. Qu'il s'agit juste d'une adaptation, d'une vision de l'état d'esprit de ces personnes qui sont très certainement menées à penser qu'ils sont simplés de la part du réalisateur, comme je vous l'ai dit. Donc, un exemple très simple pour vous prouver à quel point ils sont cons, c'est quand l'un d'eux doit aller chercher de l'eau oxygénée pour fabriquer des bombes et qu'il explique que pour être discret, en fait, dans la boutique, il utilise différents types de voix qui s'avère être exactement la même à chaque fois. Il va dire j'ai utilisé une voix de femme, il fait bonjour, je voudrais 12 litres d'eau oxygénée. Ensuite j'ai utilisé la voix d'un Iran, bonjour, je voudrais 12 litres d'eau oxygénée, et ainsi de suite. Voilà, la connerie en puissance.
Il y a aussi le passage justement, là je le fais à la radio mais personne ne peut le voir, où il cache sa barbe comme ça quand il dit qu'il a fait la femme.
Voilà.
Mais c'est plus drôle à raconter, c'est pas très drôle, mais c'est très drôle à voir en fait.
C'est juste un exemple après, bien sûr. Donc enfin bref, c'est un film vachement intéressant en ce sens. On rit de ce qu'ils font. Et pourtant on les aime bien ces personnages. Enfin pour moi, ils sont attachants en fait. Et ils sont pas présentés comme des monstres. Au contraire, les monstres que j'ai vus dans ce film sont le frère d'un des personnages qui est totalement croyant, musulman. En puissance et qui a un comportement ignoble avec les femmes. Et, ou encore les policiers anglais qui soupçonnent le frère, donc celui que je viens de vous citer, le super croyant, d'être un terroriste juste parce qu'il est extrêmement croyant.
Ouais, alors que c'est un pacifiste. Hein.
Voilà, c'est ça.
En fait, c'est parce que du coup, ils font bien la différence entre un terroriste et un musulman croyant.
Mais ils ont retourné aussi la vision du terroriste.
Disons
dedans.
Que c'est intéressant parce que l'image du frère, justement, c'est l'image. D'une vision de l'islam qui est assez conservatrice.
Oui.
En fait, le mec ne peut pas se. Enfin, le dit ne peut pas se trouver dans la même pièce qu'une fille.
Oui, bien sûr.
Ils sont toujours entre hommes, ils portent les espèces de bonnets, les grandes tuniques aussi, et la grosse barbe. Alors que le frère, au final, est quand même vachement occidentalisé. Mmh. Hein, celui qui est terroriste, il est très occidentalisé.
Ouais,
non,
c'est intéressant. Ça,
les mœurs de la religion, enfin, il les respecte sans trop se prendre la tête. On sait.
Il est assez libre, quoi.
Il est assez libre. On n'a pas l'impression que la religion soit le moteur de son envie de terroriste,
non,
en fait.
Ça serait plus peut-être un coup de gueule face à la société, en fait.
Ouais.
D'accord.
C'est ça qui est étrange, parce que au final, ils reprennent quand même des discours qu'on entend dans
les
ce qu'on voit dans les médias. Mmh. Et pourtant, quand on le voit dans sa vie de famille, famille avec sa femme ou même son fils. D'ailleurs, sa femme et son fils le soutiennent dans sa démarche. C'est-à-dire, ils savent tous les deux qu'il va se faire tuer, et pourtant, ils sont là, ils sont en train de l'encourager, ils lui disent « Ouais, c'est bien ce que tu fais et tout ». Ce qui est assez bizarre. En fait, on peut se douter peut-être que les femmes sont comme ça, en fait, en vrai, parce qu'au final, on n'entend jamais parler des femmes des terroristes.
Oui, il y en a une dernièrement.
Oui, non, il y en a une, sur toutes. Il y en a quand même beaucoup. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, si est-ce qu'elle les soutient ou bien voilà. Mais là, on voit vraiment un soutien de la part de sa femme, quoi. Elle sait qu'il va se faire tuer, mais elle est presque heureuse pour lui de faire ça. Parce que c'est au moins un moyen, elle est heureuse parce qu'il soutient une cause, en fait.
C'est la femme du frère ou du conservateur ?
La femme du terroriste.
Du frère, pas du conservateur.
Ok, ouais, pardon. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nuance quand même.
Oui, il y a une nuance. Hein,
que le conservateur soit pas terroriste, je trouve ça génial.
Mais justement, le film.
Je veux dire ça aujourd'hui.
Mais justement, le conservateur, enfin le frère, son frère, il y a un moment, va aller le voir pour lui demander à quoi il joue.
Ouais.
Et parce qu'il se doute de quelque chose, en fait. Et son frère lui dit je vois pas de quoi tu parles, en fait. Enfin, le terroriste, ça va pas te dire je vois pas de quoi tu parles. Et l'autre lui dit on est des pacifistes, enfin il faut pas que tu, enfin il faut pas que tu tues au nom d'Allah. Il dit ça a aucun sens, en fait.
Bien sûr.
Et en fait voilà, c'est vrai que tout le film, le film est vachement nuancé, même l'humour peut-être à la fois, peut nous faire rire très jeune, mais il peut être aussi à la fois vraiment détonnant, parce que c'est vrai que les personnages sont très bêtes.
C'est des simplets, quoi. Ah, il y en a pour décrire un peu le truc, il y en a un des cinq qui veut, pendant tout le film, il veut dire qu'il veut faire péter une mosquée.
Mmh.
Ce qui est un peu con, je dirais, pour un musulman.
Ce qu'il veut radicaliser les musulmans. Voilà.
En gros, il dit c'est par la force qu'on pourra radicaliser les musulmans, donc il faut faire péter une mosquée.
Ouais, il veut utiliser la terreur pour attirer les gens, bien sûr.
Ensuite, il y a le simplet qui, à chaque fois qu'on lui parle, on lui dit « Qu'est-ce que te dit ton cœur ? Est-ce que tu veux vraiment suivre ce qu'on fait ?» Donc il y a quand même un choix, tu vois, aussi. Ils ne sont pas forcés à le faire.
Ouais.
C'est à chaque fois, c'est « Si tu veux arrêter, t'arrêtes, et puis c'est tout. » T'en as un qui rejoint l'équipe juste parce que à la base, il trouvait ça cool. Il fait ça pour le buzz, en fait. Il filme tout le temps. Le chef de groupe, Omar, c'est celui qui a un peu les discours les plus intelligents, peut-être. Il arrive à les mener, il arrive à les tenir à chaque fois qu'il ressort. C'est lui d'ailleurs qui parle du système de différents choix de type de Cheddar. C'est lui qui tient le groupe par la main. Et ensuite le cinquième, c'est vraiment le plus con, qui lui par exemple propose, et en fait il y a qui rejoint un peu le premier con qui suit son cœur. Là c'est le gars qui veut protéger son père et en même temps qui veut faire exploser un sex shop avec un corbeau.
Ouais.
Voilà, en plaçant une bombe sur un corbeau. Enfin voilà, c'est vraiment des idées comme ça de conneries. Donc, la réalisation a quand même une part très importante dans ce film aussi, parce que nous ne sommes pas placés en tant que spectateurs simplement, mais en tant qu'observateurs directs de la plupart des actions. Tout est filmé en caméra épaule, parfois de façon discrète, comme si quelqu'un observait la scène de loin.
Ouais.
Donc on observe aussi une certaine... certaines scènes depuis les portables ou les caméras que les cinq personnages utilisent, ce qui place un doute tout de même sur le fait qu'ils soient surveillés depuis le début du film, mais que l'on attend tout de même qu'ils passent à l'acte avant d'intervenir. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'au final, certains plans qu'on a vus dans le film, on les retrouve dans les plans que les policiers utilisent pour prouver qu'ils sont des terroristes.
Ouais.
Donc est-ce que les policiers les suivent depuis le début ? On n'en sait rien, vraiment. Donc voilà, en tout cas, ce fut un très bon moment à passer dans tous les cas. Il peut paraître totalement absurde de regarder un film sur un tel sujet à notre époque, et pourtant il fait du bien, à mon goût. C'est un film à voir, surtout qu'il a été primé de plusieurs prix du meilleur scénario, ou même de meilleur film. Certes, certains gags sont très poussés vers une sorte de parodie, mais c'est une partie de l'humour anglais qui passe parfaitement dans le film, qui le réussit très bien.
Bon bah écoute, merci Ange pour cette chronique fort intéressante, et les décadrés c'est fini.
Oui, les décadrés c'est fini
pour aujourd'hui, pour cette semaine,
et on se rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle édition
et plein d'amour,
exactement, avec Ange, Benjamin et
Antoine,
moi, votre fidèle serviteur, celui à la voix suave et emmêlée. Voilà,
toi, comment il se monte.
Ouais.
Les décadrés,
à bientôt.
À bientôt.
Salut.